Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui avec Magali Bachet. Magali Bachet est basée à Pierrefonds et elle aime les animaux. Magali, tu vas nous raconter pourquoi tu aimes les animaux et comment tu abordes en fait cette passion dans ta vie.
C'est difficile de dire pourquoi j'aime les animaux. Je les aime, je pense que c'est tout. Ils sont libres, ils sont beaux, ils sont sauvages. Enfin, j'aime les animaux non sauvages aussi, mais j'aime leur mystère, leur douceur, leur sauvagerie, leur jeu, leur fantaisie.
Est-ce que tu travailles avec des animaux ? Tu as monté une agence, tu m'as dit. Donc
oui, je peux pas dire que je travaille avec des animaux, mais il y a des animaux dans mon travail. C'est-à-dire que j'organise des safaris en Afrique, essentiellement sur mesure. Donc des personnes vont m'appeler, me dire voilà, j'ai envie d'aller faire un safari dans tel pays. Parfois, ils savent pas dans quel pays. Ils me disent ah, mais j'ai envie de voir ça, de faire plutôt tel rythme. Moi, je leur propose un itinéraire sur mesure que je vais ensuite réserver pour eux et organiser tout pour eux. Donc bon, c'est avec une priorité sur les safaris en Afrique. Et donc effectivement, j'envoie les gens voir les animaux et je vais moi-même en Afrique très régulièrement pour...
T'as déjà fait des safaris pour en proposer, c'est ça ?
Beaucoup.
Beaucoup ?
Beaucoup. J'ai vécu aussi en Afrique du Sud pendant 2 ans. Oui, je pense que si tu mets tous mes safaris de bout à bout, ça fait plus d'un an dans la brousse, oui.
Donc l'Afrique en particulier ?
L'Afrique en particulier.
C'est là qu'il y a le plus d'animaux sauvages, où on peut les voir ou
Oui, je pense que c'est l'endroit où il y a le plus de zones encore vraiment très vastes et très sauvages.
C'est une reconversion professionnelle, donc, d'avoir monté cette agence. On peut dire le nom, juste.
Oui, alors l'agence s'appelle Secrets du Monde Sauvage. Et oui, je l'ai créée il y a 12 ans. Et avant ça, je faisais du marketing chez L'Oréal, donc ce qui n'a pas grand-chose à voir, hormis le fait que j'ai travaillé 2 ans pour eux en Afrique du Sud. Voilà, donc à un moment, j'ai décidé de faire ce qui était vraiment essentiel pour moi et de me lancer donc dans les voyages pour aller voir les animaux.
Tu travailles toute seule à cette agence ?
Oui.
Est-ce que c'est compliqué ?
Non, ça convient bien à mon caractère, faut tout faire toute seule, oui.
Donc tu montes des voyages sur mesure, mais ça veut dire que tu t'inspires de ta propre expérience et puis tu fais pas mal de recherches, j'imagine.
Oui, bah du coup ça fait 12 ans que je passe toutes mes journées à travailler sur des safaris, donc à faire des reconnaissances sur place, à faire des recherches sur internet, à parler avec mes correspondants si j'ai des correspondants dans chaque pays. Donc oui, à force, on connaît pas tout. Il y a des pays, notamment le Botswana, c'est un environnement qui change tout le temps. Le delta de l'Okavango, ça se remodèle, on croit connaître. Et puis, une région qui était inondée est devenue sèche et il y a beaucoup plus d'animaux qu'avant. Enfin, ça change sans arrêt. Donc, je ne suis toujours pas, je ne serai jamais complètement calée sur les safaris, mais autant que je peux. Et c'est passionnant de continuer d'apprendre.
Est-ce que les safaris, ça pourrait poser des problèmes aux animaux, à leur manière de vivre, justement à leur sauvagerie naturelle ? Est-ce qu'on les dérange ? Est-ce que l'homme les dérange ?
Oui, je pense qu'objectivement, on les dérange un petit peu. Après, on les dérange le moins possible. C'est sûr qu'idéalement, il faudrait que les animaux sauvages aient leurs endroits à eux et qu'on n'intervienne absolument pas, qu'on les regarde pas, qu'on n'aille pas chez eux. Après, les parcs sont quand même globalement bien réglementés, on fait pas n'importe quoi. Ceux où il y a du monde, on va être obligé de rester sur les routes. Et les routes, c'est une micro-partie du parc. C'est-à-dire que les animaux, s'ils veulent pas voir des voitures et des humains, ils en voient pas, ils restent loin des routes. Et ils vont rester sauvages. Après, oui, dire qu'on n'a aucun impact, ce serait pas vrai. On en a un petit.
Et la nature de l'animal, donc, c'est d'être sauvage et de se cacher. Donc forcément, c'est compliqué pour lui.
Pas toujours.
Il peut se montrer par
la plupart des...
envie, tout simplement, oui. Par rencontre.
Pas par envie, mais parfois par envie. Ça m'est arrivé de voir des animaux qui avaient envie, mais c'était pas
quel
un comportement
type,
très normal. J'ai une petite antilope une fois qui s'est approchée vraiment très près de ma voiture et qui venait,
était curieuse.
Qui venait me voir, mais ça paraissait pas très normal comme comportement. Par contre, l'indifférence est devenue complètement normale. C'est-à-dire que les endroits où ils sont habitués aux voitures, ça leur pose aucun problème. Tant que la voiture fait pas rugir son moteur ou leur fonce pas dessus, mais une voiture qui roule doucement, qui s'arrête pour les regarder... à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres suivant les animaux, ça leur pose aucun souci. Il y a certains cas où ça les arrange. Moi, j'ai eu une fois un lion qui est venu faire sa sieste à l'ombre de ma voiture, donc il était très content de profiter de l'ombre. Il y a des guépards, notamment dans le Maasai Mara, qui adorent se percher sur les voitures, donc ils grimpent sur le toit parce que ça leur fait un bon point de vue pour repérer des proies. Donc non, ils sont très à l'aise avec les voitures une fois qu'ils sont habitués. Ouais.
Il n'y a pas d'agression animale-homme, parce que bon, ils sont quand même réputés pour être un peu dangereux, non, pour certains.
Il peut y en avoir.
Un lion, par exemple, on ne va pas aller le caresser comme un chien, quoi.
Ah enfin, non, bon, on va on évite d'aller le caresser, mais on peut effectivement être dans sa voiture juste à côté. On reste calme, et en restant calme, on peut garder la fenêtre ouverte ou être dans un 4x4 ouvert, il n'y a pas de souci. Les animaux qui peuvent être dangereux quand on est en voiture, c'est les éléphants, qui peuvent dans certains cas charger les voitures. Donc quand on est avec un guide, il va connaître le comportement des éléphants, et savoir bien anticiper et s'éloigner si besoin est. Et quand on est sans guide, on garde un petit peu de distance de sécurité avec les éléphants.
Raconte-nous une rencontre avec un animal qui t'a particulièrement plu, si tu peux aller piocher ça dans tes souvenirs.
Et écoute, oui, j'en ai une qui est dans le désert de Skeleton Coast en Namibie, où j'étais partie parce que je voulais rencontrer un chercheur qui travaille sur les lions. Parce que j'avais lu ses recherches et que je trouvais ça absolument passionnant. Ils avaient fait des recherches sur les techniques de chasse des lions en Namibie. Et donc je voulais absolument le rencontrer. Je ne savais pas où il était, je savais qu'il était en Namibie, qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable. C'était un peu complexe. J'arrive à le localiser, j'apprends qu'il est dans tel lodge, j'arrive au lodge, je le rencontre au début. Bon, il est un petit peu distant, comme sont souvent les scientifiques au début, parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on vienne mettre leur nez dans leurs recherches. Puis bon, finalement, j'arrive à gagner sa confiance. Il me dit, ok, bien, on va suivre les lions cette nuit. Et donc, on a suivi deux lions. Donc, il y en a une qui avait un collier de radiotraquage, donc il a repéré avec son collier. C'était deux jeunes lions, à peu près 3 ans. Donc, c'est un âge où normalement les lions ne sont pas toutes seules, elles sont encore dans un clan. Elles étaient toutes seules dans le désert, très indépendantes, elles arrivaient à chasser et tout. C'était une belle nuit, donc on les voyait soit la jumelle infrarouge, soit la lumière du clair de lune. Et elles jouaient, et c'était magique de les voir jouer. C'est-à-dire qu'elles marchaient tranquillement, puis il y en a une qui marche, qui se cache derrière un rocher, puis on la voit plus, puis l'autre arrive, et la première lui saute dessus. Enfin, vraiment, elles étaient en train de jouer, elles étaient belles.
Elles jouaient à cache-cache, même.
Elles jouaient à cache-cache. Les voir jouer comme ça, sous la lune, c'était quelque chose d'absolument magique.
Est-ce que on les chasse, les animaux sauvages? Est-ce qu'on essaye de les capturer pour certains?
Alors, il y a de la chasse aux trophées qui est légale, qui est pas dans les mêmes parcs globalement où on va faire du safari photo. C'est deux réseaux qui sont très étanches. Donc moi, je connais vraiment le safari photo, et si on me demandait à aller faire de la chasse, je voudrais pas et je saurais pas non plus l'organiser parce que je sais pas comment ça se passe. Après, dans les parcs, il y a un peu de braconnage, notamment sur les rhinocéros, puisque la corne de rhinocéros se revend à prix d'or. C'est une guerre avec des hélicoptères, des kalachnikovs. C'est comme la guerre de drogue. Il y a une guerre pour la corne de rhinocéros. Il peut y avoir des captures de petits lions, de petits guépards, pour des gens qui veulent les avoir en captivité. Ça, c'est un peu à la mode dans les pays du Golfe. C'est plus marginal, on va dire. Je vais pas dire que c'est pas un problème, mais ceux qui sont vraiment menacés par la chasse, la capture, c'est les rhinocéros. Et les pangolins. Moi, je vois jamais en Afrique australe parce qu'ils se cachent tous, mais il y a un vrai souci avec les pangolins aussi.
Est-ce qu'il y a une possibilité, en dehors des 4x4, de partir à pied à la rencontre des animaux?
Alors, il y a plein de safaris qui ne seront pas en 4x4. On peut faire des safaris à pied, on peut faire des safaris en bateau, on peut faire des safaris en pirogue, on peut faire des safaris à cheval. Et le safari en 4x4, ça reste quand même le meilleur moyen de voir beaucoup d'animaux et de les voir de près. À pied, c'est très différent. À pied, autant les animaux ont pas peur des voitures, quand une fois qu'ils sont habitués, ils se laissent approcher très facilement. À pied, c'est pas la même histoire. Quand l'animal vous voit, il va s'enfuir. Ou il va se sentir menacé, il va se mettre en position d'intimidation, enfin, il va y avoir une interaction et on va pas approcher du coup aussi près des animaux. Par contre, quand on est à pied, on voit toutes les traces et pistées, c'est super passionnant. On voit vraiment les traces de la vie des animaux, où ils sont passés, comment ils ont marqué leur territoire, etc. On apprend à reconnaître les empreintes de pas. On a les odeurs, on a les sons, que ça en a beaucoup moins dans un 4x4. Et puis quand on les voit, même si on les voit de plus loin, c'est des sensations qui sont beaucoup plus fortes que quand on est en voiture. D'un coup d'adrénaline, quand on se retrouve pas très loin d'un éléphant, d'un buffle, d'un lion, ou même d'un koudou, d'un zèbre, les sensations sont plus fortes que depuis un 4x4. Donc oui, idéalement, il faut faire un peu des deux.
Et t'organises donc des safaris et en 4x4, et à pied ou en pirogue, quel que soit le moyen de transport, en fait, il y a des possibilités.
En général, la majorité se fait en 4x4, avec possibilité de faire de temps en temps un safari à pied, en bateau, en pirogue, à cheval, ça dépend. Quand il y a des prédateurs, il faut être un bon cavalier. Moi, j'ai jamais fait dans des endroits où il y a des prédateurs.
C'est quand même une interaction avec le cheval, en fait, et les animaux, j'imagine. Donc, il doit se passer quelque chose qui peut être de l'ordre de l'agressivité, non ?
Le cheval va, au contraire, rassurer les herbivores. C'est-à-dire qu'à pied, on ne va pas approcher trop près d'un zèbre ou d'une girafe. À cheval, oui. On laisse le cheval brouter, le zèbre va voir, ah, il broute, il est comme moi, il va se détendre tout de suite. Par contre, avec un prédateur, le cheval va avoir peur, risque de se mettre à courir, le lion risque de se mettre à courir après. Donc là, effectivement, c'est réservé à des gens qui maîtrisent très bien leurs chevaux et les débutants comme moi doivent rester sur la terre ferme.
T'organises des safaris et donc tu vas parfois sur place. Est-ce que t'aurais pas un jour envie de passer de l'autre côté et participer à un safari en tant qu'organisatrice, c'est-à-dire pas juste en tant qu'agence?
Accompagner les...
Oui, comme guide.
Alors non, je l'ai fait un petit peu au début. J'ai accompagné 3 groupes au début. C'était, au départ, je pensais faire ça quand j'ai créé ma boîte. Et puis, je me suis aperçue que j'étais pas très douée pour accompagner les gens, que j'aimais pas forcément ça non plus. Je connais suffisamment les pays et les animaux. Mais oui, voilà, gérer un groupe, c'est un métier, ça demande des qualités particulières et que j'ai pas tellement. Pour organiser des voyages, je le fais bien, mais accompagner, je préfère confier ça à des gens plus doués que moi. Et je pense que même pour les voyageurs, c'est plus sympa d'avoir quelqu'un qui vit dans le pays, qui passe tout son temps, qui va avoir un petit côté Indiana Jones parfois, que moi je peut-être pas assez non plus. Comme ça, tout le monde est content.
Je crois que tu es partie à l'aventure dernièrement. Tu es allée voir des gorilles.
Ah oui, je suis allée en Ouganda, où il y a une des dernières populations de gorilles de montagne. Et donc j'ai vu les gorilles de montagne, j'ai pu passer une heure avec eux. C'est une rencontre que j'ai trouvée très douce. Je m'attendais à être impressionnée, comme on est impressionné quand on croise le regard d'un lion, d'un léopard, même d'un éléphant, il y a un frisson. Avec les gorilles, non. Alors, ils sont très forts. Pour moi, c'était très doux et calme. Il y avait un côté...
Entre deux animaux.
Entre deux humains. Ils ont un côté, effectivement, c'est un côté humains. Très humain aussi. On a un peu l'impression de rencontrer des lointains cousins qu'on avait perdu depuis longtemps. Donc il y a quelque chose de très familier, effectivement, et qui ne faisait pas peur du tout. Alors qu'objectivement, un gorille, c'est aussi dangereux qu'un lion. Mais...
C'est très costaud, un gorille, non ? Ça mesure combien, en fait ?
C'est pas plus grand qu'un homme, ça doit faire 1m70, 1m80, mais c'est beaucoup plus lourd, ouais, ça fait dans les 200 kg.
Il y a une masse musculaire, en fait, qui doit être assez importante.
Ah bah oui, quand on les voit grimper aux arbres, ils sont très très costauds.
Et comment tu reviens d'un de tes voyages ? En fait, tu dois être un peu déboussolé de retrouver... la Picardie, l'Oise, après un voyage aussi d'aventure, loin en plus.
Oui, le retour, c'est toujours un peu déboussolant, effectivement. Il y a un choc thermique, il y a un choc culturel. Après, bon, moi, j'ai l'habitude, j'ai quand même fait pas mal d'allers-retours, donc on finit par s'habituer au changement. Mais oui, ça fait toujours un peu bizarre.
Est-ce que tu peux juste nous donner quelques infos sur ton agence ?
Ma spécialité, c'est les safaris sur mesure, essentiellement en Afrique australe. Donc, c'est la région qui est constituée par l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique. Je vais faire un petit peu d'Afrique de l'Est aussi. Je vais commencer bientôt l'Ouganda, donc suite à ce voyage. Mais ma spécialité, c'est vraiment le sud de l'Afrique. Le site internet, c'est secretsdumondesauvage.fr, secret au pluriel. Et mon email, donc, c'est Magali, qui s'écrit sans E, @secretsdumondesauvage, secret au pluriel et tout attaché, .fr.
Bien, merci beaucoup.
Merci Anne-Laure. When a child is born,
I've already grown. J'étais avec Magali Bachet, donc, qui organise des safaris pour aller découvrir les animaux sauvages, notamment en Afrique. Son agence s'appelle Les Secrets du Monde Sauvage. Bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.